Donc c'est un peu la cour des miracles, votre salle d'attente.
C'est pourtant pas de miracle ici, vous le savez.
À vous le dire tout de suite, je n'ai pas lu votre livre.
Mais c'était pas utile à notre rencontre.
On vous a vu partout, radio, télé, journaux. Le confinement vous a fait passer au premier plan. C'est impressionnant, ce tourbillon médiatique.
Oui, un tourbillon, en effet.
C'est une belle vue. C'est drôle, quand j'ai décidé de déménager, j'ai visité un appartement tout près d'ici. Mais beaucoup trop cher, je n'ai pas les moyens de m'installer ici. Peut-être que si j'avais écrit un bouquin.
Peut-être. Je vous en prie. Vous êtes installé où ?
Près Saint-Gervais. Dans une maison de famille à l'abandon depuis des années. J'ai de l'espace, une cour, je respire. Mes patients râlent parce que c'est un peu loin du métro. En fait, j'ai beaucoup de nouveaux patients. Et vous, Nathan m'a dit que vous venez d'arriver à Paris ?
Oui, je vivais à Lyon avant.
Vous n'êtes pas encore complètement installé, visiblement ?
Pas tout à fait.
Bon, je suppose qu'il vous a expliqué pour le procès.
Oui. Je connais votre situation et j'en suis vraiment désolée. Perdre un patient, c'est terrible.
Croyez bien que je ne suis pas très à l'aise de faire cette démarche. Mes avocats pensent que c'est une bonne chose pour ma défense, que je sois en contrôle avant que ne démarre le procès. Une supervision, si vous préférez.
Pourquoi moi ? Pourquoi vous faites appel à moi pour cette supervision ?
Alors justement, ils ont insisté sur le choix de la personne. Ils veulent un nom qui soit connu de la cour, quelqu'un de sérieux, de solide. Même si c'est pas mon avis, j'ai décidé de suivre le leur, de leur faire confiance. Et quand j'en ai parlé avec Nathan, alors, il ne tarit pas d'éloges sur vous, sur votre discours, votre approche. Votre engagement. Et vous le connaissez, il n'a pas considéré que l'aspect...
paillette.
C'est ça. Donc quand je lui ai parlé de mon obligation de rentrer en contrôle, enfin, je suis pas obligé, disons que c'est fortement conseillé, bref, Nathan a suggéré que je vienne vous voir. Voilà.
Écoutez... J'ai jamais fait de supervision. Je dis pas que ça me tenterait pas d'engager une discussion avec un confrère sur sa pratique. Mais je suis pas sûre d'être la personne qu'il vous faut. Je vais être franche. Si je me lançais dans une supervision, ce serait avec quelqu'un qui souhaiterait vraiment travailler. Pas par prescription. Et de surcroît avec moi. Pas seulement avec mon nom. Si vous cherchez juste un garant ou un témoin à décharge pour votre procès, je suis pas la bonne personne. Enfin, je suis pas sûre de vouloir l'être parce que j'estime que c'est pas dans votre intérêt. Vous venez parce que vous êtes obligé de venir. Il aurait été préférable que vous en ressentiez sinon le besoin, le désir. On n'est obligé à rien, ni vous ni moi. On ne se lance pas par obligation, mais par nécessité, par choix personnel.
Qui vous dit qu'il n'y a pas de besoin ?
À vous de me le dire.
Depuis l'accélération de toute cette procédure contre moi, je me sens fragilisé. J'y pense tout le temps. Ça vient s'immiscer dans les séances face à mes patients. Je me mets à douter même de ma propre écoute. Je crois que c'est une erreur de ne pas avoir repris plus tôt un suivi. Je crois que oui, en effet. J'ai besoin de reparler de mes analysants, des séances, de faire un point régulier de ce que je fais, de ce que je dis ou pas, de ce que je comprends. Alors vous voyez, il y a un besoin.
Quand est-ce que vous avez cessé votre précédente supervision ?
J'ai repris en novembre 2015, juste après les attentats. C'était pas vraiment une supervision. C'était plus un travail, disons, ponctuel. Avec Esther Gaget. Vous voyez qui c'est ?
Oui, je connais son travail.
Elle a été ma professeure. Oui. Enfin bref. J'avais besoin de parler à ce moment-là. Et puis ça n'a pas duré longtemps. J'ai cessé d'aller la voir quelques mois plus tard. Disons que ça ne fonctionnait plus.
Qu'est-ce qui fonctionnait plus ?
Nous. Elle et moi. C'était un ouragan à chaque séance. Nous n'étions d'accord sur rien.
Parce qu'il s'agit d'être d'accord sur tout.
L'année dernière, elle a publié un article sur les safe places. Vous savez, les lieux aux États-Unis où les étudiants des campus se réunissent pour se sentir en sécurité. Qu'est-ce qu'elle connaît au safe place ? Elle n'est jamais sortie de son quartier. Alors évidemment, elle n'a pas eu autant de succès que vous. Son texte était extrêmement technique, imbitable pour tout dire. Sans doute que le vôtre est plus facile d'accès. Enfin bref, nos séances se sont arrêtées. Ce n'est plus l'occasion de parler de mes patients, mais aussi de ma pratique. Avant, j'échangeais avec des confrères. Je participais à des groupes de travail avec Nathan, justement. Et tout ça a fini par m'insupporter. Les commentaires de commentaires, enfin vous savez, ces débats n'ont plus fini, complètement stériles sur le point virgule dans la citation de Lacan, enfin c'est... Ah. Maintenant, je ne fais plus partie d'aucun. Même ma participation à la revue. Moi aussi, je m'étais mis à écrire un petit peu. J'ai tout arrêté. Tout. Je me suis isolé. Tout ça m'est apparu comme complètement vain. Face à ces gens qui se succèdent à mon cabinet, face à leurs souffrances, à mon incapacité à les aider. Ce procès me met à bout.
La colère aussi est épuisante.
J'ai quelques raisons de l'être. Vous ne trouvez pas ?
Je vous offre un verre d'eau ?
Non, merci. Vous n'avez pas plutôt un bout de chocolat ou un sucre ? Je crois que j'ai besoin de...
Ne bougez pas. Je vais... J'ai peut-être quelque chose. De partager son bureau avec un peu de psychiatre.
Merci. Mmh. Quel cliché. Le petit garçon sous la charge des responsabilités. Ou qui aimerait bien les fuir? Ou quoi encore? Une régression? Allez-y, dites-le.
Régression? Ce sont vos mots, pas les miens. Je ne tire aucune conclusion hâtive. Je suis vraiment désolée pour vous, Philippe. Ce qui vous arrive, c'est... Quand un patient commet un suicide, c'est peut-être la pire chose...
Attendez, pourquoi vous parlez de suicide? Il s'est pas suicidé. Il est parti combattre en Syrie et il s'est fait tuer.
Quand vous avez mis un terme à sa cure...
Je n'ai pas mis un terme à sa cure. C'est lui qui l'a arrêté. Adèle est arrivée un jour en séance. Il avait déjà pris sa décision.
Bon. Mais quand il a arrêté, vous avez eu le sentiment que la cure avait échoué?
Il est venu me voir car il avait des crises de panique. Il a arrêté parce qu'il se sentait mieux.
Donc il a atteint ses objectifs. Vous aviez des objectifs différents?
Oui.
Lesquels?
J'espérais qu'il puisse se pardonner. Il était le survivant d'un drame absolu, d'un massacre. Mais se pardonne-t-on jamais quoi que ce soit? Pardonner aux autres, sans doute. Heureusement, mais à soi-même. Est-ce qu'on y arrive vraiment?
Parfois, ça arrive aussi.
Parfois, oui. Ça prend combien de temps?
Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner? Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Peut-être avez-vous besoin d'en parler en dehors de la procédure. Quelque chose sur vos doutes, sur vos responsabilités.
Oui, je ne sais pas, quelque chose comme... sur la responsabilité, en fait. Ce que j'ai dit ou pas dit, fait ou pas fait. Ou de ce que j'aurais... dû faire.
Qu'est-ce que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait?
J'ai reçu un type hier. Une de ses employées s'est jetée par la fenêtre pendant le confinement. Sans doute harcelée de travail. Et quand je l'ai vue, j'ai pensé, ce type va se jeter par la fenêtre, lui aussi. Voilà ce qui m'est venu. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce qu'on peut?
Vous parlez vous-même de suicide? Vous pensez qu'il a des pulsions suicidaires?
On ne peut pas encore l'affirmer. C'est un sentiment que j'ai eu à la première séance.
Si vous aviez pensé qu'Adèle Chiban était en danger, vous auriez tout essayé pour l'empêcher de partir, n'est-ce pas?
J'ai une nouvelle patiente, s'appelle Lydia. Elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein. Elle est terrifiée, en plein déni. Elle ne l'a dit à personne, ni à sa famille, ni à ses amis, à personne sauf à moi. Elle dit qu'elle ne veut pas faire de chimio. Elle doit avoir ce fantasme inconscient que si elle ne suit pas de traitement, elle n'a pas de cancer.
Vous l'avez convaincue?
Mais je ne crois pas qu'elle soit prête à l'entendre. Et je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Si c'était ma fille, je la prendrais par le bras et je la traînerais jusqu'à l'hôpital.
Oui, certainement, c'est ce qu'on fait pour sa famille.
Et pas pour ses patients ?